Ces regards déterministes ont été théorisés au début du XXe siècle. Friedrich Ratzel, par exemple, dans son approche d'anthropologie géographique, propose un certain nombre de concepts et de méthodes. En même temps que ce déterminisme géographique est apparu, il a été éminemment critiqué au sein de la discipline et à l'extérieur de la discipline, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir là. Et on a vu se apparaître petit à petit, alors un peu en opposition, mais en vérité plutôt en décalage, la notion de possibilisme qui habite encore pour partie la géographie et qui est sans doute en relation avec une autre notion qui est la plus répandue aujourd'hui, qui est celle des affordances, c'est-à-dire des potentialités qu'offre le milieu aux animaux ou aux sociétés ou aux végétaux qui le peuplent. On a eu un renouveau récent de cette question du déterminisme spatial, en particulier avec toute une série de travaux, où on pense évidemment aux ouvrages de Jared Diamond en particulier, sur la manière dont la distribution des continents, la distribution de l'espace géographique et ses caractéristiques pouvaient influencer la distribution d'un certain nombre de phénomènes sociétaux et humains. Ce qui fait qu'on a une forme de retour d'un déterminisme un peu relativé par la technologie. C'était déjà présent d'ailleurs chez Georges Bertrand, où cette notion de déterminisme en relation avec les types de technologies techniques possédées par les sociétés avait été mise en avance. Il faut dire que ce mouvement-là est un mouvement qui est situé dans le temps, il ne vient pas de nulle part, il va exploser au moment où on se penche sur la cartographie globale du monde, et que le déterminisme géographique est aussi en grande partie en relation avec la mise en ordre cartographique du monde, parce qu'il procède partie de la cartographie des différentes dimensions qu'on vient d'évoquer. Donc c'est un processus qui est aussi historique, et qui repose sur des concepts qui sont les concepts de région homogène et stable, et les concepts de groupe culturel, qui posent autant de questions que d'autres, que le déterminisme lui-même. Mais je vais plutôt m'intéresser, moi, à une autre forme de déterminisme environnemental, qui est un déterminisme c'est la dimension temporelle du déterminisme environnemental. C'est pareil, cette dimension temporelle, on peut la situer dans le temps, tout au moins son actualité. Elle est la rencontre de deux phénomènes, le changement climatique contemporain, ce qui se passe aujourd'hui à la surface du globe, et la responsabilité des sociétés humaines dans le dérèglement climatique, d'un côté, et d'un autre côté, la connaissance de plus en plus précise qu'on a des fluctuations climatiques dans l'interglaciaire. On a parlé un petit peu de la fin du dernier glaciaire ce matin, mais de notre interglaciaire et la manière dont on a petit à petit compris que ces interglaciaires n'étaient pas stables climatiquement, mais étaient soumis à des fluctuations climatiques. Ces fluctuations climatiques, elles ont été pour partie désignées par des changements climatiques rapides. Ces changements climatiques rapides dans la communauté, ils sont désignés par leur âge en calibré BP et ces petits points, 8.2, 5.2, 4.2, 2.8, autant de phases dans lesquelles on a des changements climatiques globaux ou enregistrés localement. Ce faisant, on a rapproché ça évidemment d'un certain nombre d'événements, en particulier de fin de civilisation, d'effondrement, pour reprendre les termes de Jared Diamond encore, pour essayer d'établir des facteurs de causalité entre ce changement climatique et des changements culturels majeurs, tels que l'effondrement des civilisations mésopotamiennes ou égyptiennes, un certain nombre. Donc ce déterminisme, il part du principe que le fait climatique influence globalement la distribution des ressources, a un impact agricole sur les sociétés agraires, et vient progressivement déstabiliser les organisations sociales et promouvoir d'autres formes d'organisation sociale, en passant par les bases, qui sont les fonds communs. Pareil, ce déterminisme, il est précisément situé, en fonction des outils dont on dispose aujourd'hui. On ne peut pas faire ce type de déterminisme-là si on n'a pas de modélage profondeur dans les archives sédimentaires. Donc c'est très lié au radiocarbone et à l'utilisation du radiocarbone en paléo-environnement. Il est aussi situé en archéologie parce qu'il est contemporain de l'essor des cumuls de dates que vous voyez fleurir très fréquemment pour déterminer les dynamiques démographiques de telle ou telle région. C'est là aussi un autre élément fondamental pour fonder un petit peu ces raisonnements-là. Aujourd'hui, et après, pareil, tout un débat qui est toujours actif, toujours vif, et beaucoup de critiques. En quelque sorte, un peu d'eau a été mis dans le vin de ce déterminisme-là, puisque on a aujourd'hui un déterminisme qui l'a aussi relativisé par, en gros, l'expression de causalité multiple, où on retrouve un peu de tout, les maladies, les des parasites, des maladies, toute une série des éruptions volcaniques, toute une série de causalités qui peuvent se combiner dans ce qu'on appelle parfois une concaténation de calamités qui vont entraîner l'effondrement. C'est par exemple les hypothèses développées par Eric Klein pour le bronze récent ou par Kyle Harper pour la fin de l'Empire romain. Donc je vais me placer dans cette perspective-là et je vais aborder cette question à partir de données empiriques pour commencer, puisqu'on a travaillé sur cette question dans le cadre d'un grand programme qui s'appelait Paléomex, qui était financé par l'INSU, ex-INSU et ex-INE, pour changer d'appellation plus ou moins. Et donc on a eu un financement pour essayer de travailler sur ces questions-là en ayant une approche à l'échelle locale, c'est-à-dire que l'ensemble des choses que j'ai citées précédemment étaient plutôt des approches englobantes. Et on a donc abordé des approches paléo-environnementales à l'échelle locale, au plus proche des sites archéologiques, pour essayer de comprendre comment des phénomènes globaux, ou au moins à l'échelle de l'hémisphère nord, avaient pu avoir des influences sur l'évolution de l'environnement à l'échelle locale et comment éventuellement le mettre en relation avec des dynamiques sociales d'échelle locale ou d'échelle régionale. Donc on a utilisé les méthodes classiques de la géoarchéologie, qui sont des carottages, des analyses sédimentologiques, des analyses des restes biologiques, etc. Une des questions, par exemple, qu'on s'est posée, dans le cadre de Paléomex, et en particulier en relation avec Zoé Tirsoni, qui avait initié une ANR Balkan 4000 consacrée à ce millénaire perdu, le quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Vous voyez ici le point de départ de la question archéologique. On a une période intermédiaire entre une période qui est le néolithique récent ou néolithique final ou calcolithique selon l'endroit où on fouille pour sa dénomination, donc la période qui suit cette période-là est une période de disparition, diminution du nombre de sites archéologiques de manière importante avant qu'en bronze ancien, quelques 800 ans plus tard, on voit à nouveau émerger un nombre de sites plus importants. Ça se traduit sur la carte que vous avez à gauche qui concerne la Thessalie ici, ou ce que vous avez à droite ici dans un document qui est issu du cumul de dates pour le Péloponnèse, qui montre aussi donc, cette décroissance des habitats connus au néolithique. Parallèlement, ça est associé à un changement des traits culturels, en particulier les civilisations florissantes et très riches en mobilier, extrêmement décorées ou de différentes natures de la fin du néolithique, vont laisser la place à des sociétés de l'âge du bronze dont le registre décoratif dans le mobilier apparaît comme plus pauvre. Le travail qui a été fait par les archéologues, donc ici par Zoé, qu'elle a publié en 2016, montre qu'à partir d'une centaine de nouvelles dates, globalement, on a du mal à résoudre la question du millénaire perdu. C'est-à-dire qu'on a beau accumuler la datation radiocarbone, on a toujours une période de décroissance du nombre d'enregistrements de sites datés. Mais vous remarquez sur ces diagrammes, dans lesquels vous voyez des barres qui correspondent aux sites datés et à leur évolution dans le temps, vous voyez qu'on a une très grande difficulté à faire apparaître un schéma temporel de la disparition et de la diminution de ces sites. Ce qui montre qu'on a plutôt ici un aspect un peu chaotique et donc quelque chose qui est difficile à mettre en ordre par une raison ou par une autre. Donc la question archéologique reste ouverte, même si le vide s'est un petit peu comblé de nouvelles découvertes archéologiques. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de traiter cette question à une échelle locale, donc dans un espace d'étude qui est la Vasvallée du Strymon. On est au sud de la Grèce, un fleuve qui vient de la Bulgarie, donc au milieu de l'ère d'étude et des enjeux que je viens d'évoquer. Et on a une Vasvallée qui est aujourd'hui totalement drainée, comme vous voyez sur la photo, mais qui était un ancien lac, donc avec des archives sédimentaires, on a besoin de ça pour travailler, et à proximité de sites archéologiques que vous avez, qui sont les étoiles que vous avez là, des sites fouillés comme le site de Dimitra, d'autres qui sont simplement prospectés, dans lesquels on a des occurrences à la fois pour le néolithique final, et puis en même temps pour le bronze ancien, avec un hiatus supposé entre les deux périodes. Donc on a procédé classiquement par des carottages pour essayer de raconter l'histoire de l'environnement de cet espace-là. On s'est rendu compte que, dans un premier temps, juste avant le quatrième millénaire, on a un espace qui est en bordure d'un espace qui est humide, sans doute un paléolac, qui se constitue progressivement, et puis on est en marge de ce paléolac sur un environnement continental. Au début de la période qui nous intéresse, cet environnement est soumis à des apports fluviaux extrêmement importants. Ça correspond à l'unité jaune que vous avez là et qui correspond à la phase 2, où on a une décharge fluviale importante dans ce fond de vallée du Strimon, à la fois par le Strimon et les tributaires latéraux, qui viennent progressivement colmater ces fonds de vallée et vont donner naissance à un environnement qui va devenir franchement lacustre. C'est la phase 3, un lac peu profond, sans doute avec une dynamique saisonnière, qui vient occuper l'ensemble de l'espace, de telle sorte que l'ensemble du fond de vallée, l'espace étudié, devient recouvert d'eau, au moins largement saisonnièrement. Et on a même des sites qui sont devenus en position insulaire, hein, sur des petites buttes qui devaient émerger de ce lac. Parallèlement, on a développé des analyses polyniques, donc c'est José Antonio Lopez Saez et Arthur Blé qui ont conduit ce travail-là, qui montrent qu'en même temps qu'on a cette évolution, on a une transformation du milieu avec des épisodes plus secs qui interviennent, qui sont attestés par toute une série d'indicateurs polyniques sur lesquels je ne reviens pas, mais globalement une évolution de la végétation forestière, une diminution des taxons de zone humide qui apparaît de manière évidente et qui montre des épisodes plus secs, mais qui sont plutôt au milieu ou à la fin de la période qui nous intéresse, donc en termes de causalité ne nous conviennent pas tout à fait, même si on a ici une réalité de fluctuation climatique. Le plus surprenant pour nous a été le fait que, parallèlement, si on regarde dans le registre des micro-astmes polyniques et des pollens, la période concernée montre un maintien global des activités anthropiques, à la fois des plantes cultivées, des indicateurs de pastoralisme dans l'espace d'étude, en tous les cas pas de rupture telle qu'on aurait pu l'attendre et telle qu'elle est observée dans le registre archéologique. Donc cette forme de continuité met même en évidence à au tout début de la période, vers 4000 à 3800, 3700 avant notre ère, une intensification des pratiques pastorales. Donc ici, on se retrouve dans une situation dans laquelle on a bien un changement climatique à l'échelle locale. Ce changement climatique qui correspond à des périodes sèches de courte durée. On a bien un changement hydrologique notable, une extension des zones humides qui déstabilise un certain nombre d'habitats, ou tout au moins qui réduit leur territoire exploitable d'un point de vue agricole. Mais on a visiblement une continuité des activités agro-pastorales dans l'espace étudié. Du coup, par rapport à la question qu'on se pose, on se trouve avec une distorsion entre le registre archéologique et le registre paléo-environnemental. Je vais prendre un deuxième exemple, qui est situé, donc toujours on reste dans le même espace, et on va examiner cette fois-ci un autre changement climatique rapide, le plus célèbre d'entre eux, qui est le 4.2, donc celui qui a généré la littérature la plus précoce et la plus abondante en Méditerranée orientale, donc une période sèche d'à peu près 200 ans, qui serait à l'origine de la déstabilisation d'une grande partie des sociétés développées de l'est de la Méditerranée à cette époque. À tel point qu'on en a fait un fait géologique, puisque cet événement vient séparer l'Holocène moyen aujourd'hui de l'Holocène ancien. On a la même coïncidence, vous voyez, dans le registre archéologique, si on prend les datations radiocarbone disponibles en Macédoine, ben vous voyez qu'on a encore cette diminution du nombre de sites à un moment où l'augmentation de la sécheresse se fait. Donc la coïncidence est évidente. Reprenons nos données de terrain, ici les analyses polyniques faites par Arthur Glé qui sont publiées dans le cadre d'un article qu'on a publié l'année dernière. Donc on a ici dans ce registre pollinique des fluctuations climatiques très claires associées au 4.2 qui correspond en fait à une phase sèche, qui correspond ici à ce que vous avez en rouge sur le diagramme, qui est précédée par une phase plus froide et lui succède une phase qui est plus humide. Cette un peu tripartition dans l'évolution est assez conforme à ce que Michel Magny a décrit par exemple pour la Méditerranée centrale au sud du 40e degré de latitude nord. Mais parallèlement, si on regarde le registre des taxons anthropogènes, ce qui relève des activités pastorales ou des plantes cultivées ou un ensemble de données autour des aspects rudéraux des paysages de cet espace-là. Je vous rappelle que le sondage est situé en plein cœur du lac à cette époque-là. Et bien, on voit une explosion des taxons qui relèvent de l'importance des activités humaines, de telle sorte qu'on peut se demander si on n'a pas, suite à cet événement, ou au moment de cet événement, une ouverture considérable des milieux dans cet espace, et donc une augmentation très claire des indices d'anthropisation dans cet espace-là. Et il faut remarquer que si on a une explosion des indices d'anthropisation sur le FC8 au centre du lac, on a un maintien des indices d'anthropisation sur le FC1 au bord du lac, qui montrait déjà ces indices d'anthropisation pour la période précédente que j'ai évoquée juste avant. Donc en fait, on a ici une difficulté là aussi à lier l'évolution paléoclimatique avec la dynamique archéologique telle qu'elle est enregistrée par le registre archéologique, ce qui montre la complexité des relations entre les sociétés et leur environnement. Donc ces deux exemples étant présentés, je vais essayer de produire un certain nombre de réflexions à partir de ça, pour un petit peu dire ce qui, de mon point de vue, pose question dans le cadre de ces raisonnements, et quelles sont leurs limites, et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager mieux les questions. La première chose, c'est que dans toutes ces questions, la géographie compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si l'environnement était uniforme, même sur des échelles de distance courte, en particulier dans le monde méditerranéen. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cet environnement, il est anthropisé depuis longtemps. Si on travaille sur une néolithique finale, ça fait 2000 ans, 2500 ans qu'on a une anthropisation en Grèce du Nord. Donc on a des milieux qui sont déjà très fortement anthropisés, avec une dynamique de l'anthropisation. On n'est pas une anthropisation qui s'établit et puis ensuite qui va se stabiliser. Non, elle évolue dans le temps. Du coup, on a toujours à démêler deux fils qui sont celui de l'anthropisation et celui de l'évolution climatique. Et du coup, parfois, c'est un petit peu compliqué. Le plus bel exemple, c'est celui des incendies de forêt, qui peuvent avoir à la fois des causes climatiques et en même temps des causes anthropiques. Et évidemment, il y a une relation en plus entre les deux. Donc on est dans une situation qui devient difficile à démêler, avec des archives continentales. Deuxième chose, c'est que le milieu méditerranéen fait passer rapidement des altitudes de 2000 mètres avec des neiges pas tout à fait éternelles, mais longuement présentes en saison, et puis des espaces de bas niveau de plaine, quasiment au niveau de la mer. Donc on a une variété des environnements sur des distances très courtes, qui font que si on raisonne en termes de milieux disponibles pour différents types d'activités, on va avoir une grande variété de milieux disponibles. Et c'est vrai tout autour de la Méditerranée, même en Méditerranée orientale. Donc ça nous pose question. La deuxième chose qui pose question de ce point de vue-là, c'est qu'on sait aussi que si on change la circulation atmosphérique, admettons que le 4.2 soit un événement qui soit lié aux cellules de haute pression qui viennent de Sibérie, qui va augmenter les temps hivernaux froids et secs, on va avoir des données hydrologiques qui témoignent de sécheresse dans le nord du monde méditerranéen. Mais une fois que ces vents auront traversé la mer Égée, on va se retrouver avec des vents qui vont se recharger sur une mer chaude et on peut attendre une augmentation des précipitations dans le monde crétois. Ce qui veut dire que l'évolution climatique enregistrée à Troyes ne sera pas forcément la même que celle qui est en Crète. Et pourtant, à certains moments, elles appartiennent à la même sphère culturelle. Donc ici, il faut envisager différentes possibilités d'adaptation, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle régionale. Ensuite, on a un certain nombre d'incertitudes. Et ces incertitudes ne sont pas négligeables. La première, c'est celle du chronomètre. Vous le savez, ce n'est pas parce qu'on a un modèle d'âge profondeur, c'est-à-dire qu'on calcule de manière fictive par interpolation des âges pour toutes les profondeurs de nos carottes, que ce sont des âges qui sont forcément justes et avérés et reposent au départ sur quelque chose qui comporte une marge d'erreur qu'on augmente avec la calibration. Donc on a ici un problème de chronomètre. Je vous rappelle par exemple que la plus grande explosion volcanique de l'Holocène, l'explosion du volcan du Santorin, n'est toujours pas datée à ce jour précisément, et qu'on est entre 1525 et 1620 dans l'intervalle en ce moment où sont nos discussions. La deuxième chose, c'est que le hiatus d'information archéologique, contrairement au hiatus sédimentaire, n'est pas colmatable. Une archive sédimentaire provient d'une érosion, enfin un hiatus sédimentaire induit une érosion qui va avoir comme corollaire le dépôt de sédiments à l'aval. Donc nous, on peut toujours se déplacer pour aller chercher des archives sédimentaires qui manquent à un endroit donné. En revanche, l'archéologue, une fois qu'il a perdu son archive ou s'il ne l'a pas trouvée, elle est perdue et du coup, on fonctionne avec l'absence et on a du mal à combler cette absence. Deuxième chose de ce point de vue-là, c'est que si on regarde toutes les études que vous avez, soit les études englobantes, on va dire, Diamond, etc., soit des études qui sont plus localisées, vous trouverez rarement une démonstration complète de la chaîne de causalité nécessaire pour expliquer la relation entre un changement climatique et un changement culturel. Cette relation, elle est complexe, elle nécessite de passer des précipitations, donc leur volume, leur distribution temporelle, ensuite à la réserve utile des sols, donc de savoir faire un bilan évaporatoire, ensuite de définir les besoins en eau des différents types de plantes cultivées à l'époque, et de le faire pour toutes les unités que vous avez à disposition dans des distances raisonnables de l'habitat. Bref, un travail titanesque qu'il est à peu près impossible de réaliser, et que du coup, cette chaîne de causalité, elle est souvent supposée. Et tout ça, ça ouvre évidemment la voie et la porte au développement d'approches qui sont essentiellement téléologiques, c'est-à-dire on sait évidemment où le raisonnement va aboutir au moment même où on commence le travail que l'on fait. Ensuite, je vais essayer de revenir sur des choses qui sont un peu plus fondamentales et qui me semblent plus intéressantes presque que la relation entre ce déterminisme climatique temporel et l'évolution des civilisations ou des sociétés. La première chose, c'est il faut revenir sur un certain nombre de notions qu'on emploie assez facilement, comme la notion de ressource. C'est bien écrit dans l'ouvrage de David, mais ce faisant, on emprunte les chemins de l'économie libérale ou de sa critique marxiste, parce que pour le coup, elles sont équivalentes de ce point de vue-là, puisqu'elles vont estimer le monde en fonction d'un certain nombre de cibles potentielles accessibles pour des populations à un moment donné, dans une logique qui est presque extractiviste. Alors qu'on sait que ce terme de ressources, il est créé par Jean-Baptiste C. et par les économistes libéraux, et qu'il faudrait plutôt se référer, je reprends ici une phrase de Mathieu Arnoux, qui est un historien médiéviste, la question historique de la ressource est essentiellement théologique, et on se pose cette question-là en fonction des questions auxquelles on a à répondre tous les aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est qu'il vaudrait mieux se poser la question des besoins, et de réfléchir à partir de la question des besoins. Deuxième réflexion, ça a été dit, mais je pense que ça a des implications qui sont extrêmement importantes. Évidemment, il faut savoir de quoi on veut parler. Soit on parle dans une logique mécanique d'une relation entre l'environnement et les sociétés telle que l'on peut la modéliser aujourd'hui, la comprendre aujourd'hui, la conceptualiser aujourd'hui, et auquel cas on peut employer nos concepts contemporains, il n'y a pas de problème. Soit on s'intéresse à la relation que les populations de l'époque avaient avec leur environnement. Si c'est ça auquel on s'intéresse, et à ce moment-là, on est obligé de quitter les paradigmes qu'on utilise pour examiner notre environnement contemporain. Et donc, on est obligé de connaître les ontologies de la nature qui étaient développées par les sociétés de l'époque pour essayer d'appréhender la manière dont elles pouvaient apprécier à la fois leur environnement et les changements climatiques qui s'est appliqué à cet environnement-là. Ce qui est évidemment la chose la plus difficile du monde quand on n'a que le registre matériel pour pouvoir travailler. Deux autres idées, c'est... l'environnement est par lui-même mobile. On sait très bien que, par exemple, la dynamique de la végétation n'est pas le fait que de changements climatiques de courte durée, elle est parfois le fait de successions écologiques qui sont liées à nos interglaciaires et qui vont transformer progressivement l'environnement à un endroit donné. On sait aussi que ces environnements sont soumis à des choses sans changement climatique, des infestations qui vont affecter les animaux, qui vont affecter les végétaux, le développement de parasites. Donc que l'environnement a une dynamique, ce que savent aujourd'hui les écologues, pas depuis très longtemps, mais depuis une vingtaine d'années, que la dynamique écologique ne dépend pas simplement des facteurs exogènes qui s'appliquent à l'environnement, mais qu'en lui-même, l'environnement a un potentiel de dynamique. Ce faisant, je pense qu'il faut toujours garder à l'idée que les sociétés du passé étaient face à un environnement qui était à la fois... dont elles pouvaient avoir la sensation qu'il était aussi temporaire et précaire, que leur relation était précaire, et pas forcément un environnement stable et riche, ou un environnement stable et pauvre auquel elles étaient confrontées, mais quelque chose qui est changeant par définition ou par fonctionnement. En fonction de cela, on peut aussi envisager que les relations changent entre les sociétés et leur environnement, non pas simplement quand elles sont soumises à un stimulus extérieur, mais peut-être aussi en réponse à des stimulus internes. Et donc peut-être qu'il y a autant de changements de relations société-environnement pendant les phases de stabilité environnementale vues par les paléontalistes que pendant les phases d'instabilité paléontale telles que décrites par les paléontalistes. Donc là, je pense que c'est aussi quelque chose à aborder. On assigne, aux limites, on parlait tout à l'heure des blocs là, et des transitions, on assigne à ces transitions des choses qu'elles n'ont pas forcément à assumer et que peut-être pourraient être assumées dans d'autres moments de l'histoire de ces sociétés. Dernière idée que je vais évoquer ici, c'est le fait que les relations entre les sociétés et leur environnement, et vous le savez, elles sont riches et diverses. Elles sont aussi marquées par un attachement des affects qui relèvent de l'ontologie de la nature, qui vont déterminer les comportements. C'est pas pareil si on est dans une société totémique ou si on est dans une société naturaliste ou un autre type d'ontologie de la nature, plus toutes les variantes que vous pouvez imaginer. De ce point de vue, je pense qu'il faut se rappeler, on peut avoir en tête une phrase de Anatsin, qui est une anthropologue, et qui dit la chose suivante, c'est qu'avec les plantations et l'agriculture capitaliste, on a enlevé toutes les relations d'attachement, les relations d'amour entre les sociétés humaines et les végétaux, mais que si on veut penser la relation entre les sociétés humaines et l'environnement, pour ces sociétés passées, il faut peut-être réinstaurer un petit peu de relations affectives qui vont avec les ontologies de ces sociétés. Donc tout ça, ça fait que on est face à plein de problèmes, mais je pense que les questions deviennent moins mécaniques et peut-être plus intéressantes. Cette question de la relation entre l'environnement, elle ne doit pas être envisagée en termes de services que l'environnement peut rendre aux sociétés, ou de ressources qu'il met à disposition pour ces sociétés, dans lesquelles elles piocheraient comme dans un supermarché, mais plutôt envisagées comme le potentiel de relation entre les sociétés humaines et le monde vivant qui les entoure. Ça vaut des lombriques du sol jusqu'aux végétaux supérieurs, en passant par les animaux, les mammifères, qu'ils soient chassés ou non. Ça vaut pour les espèces utilisées et non utilisées. Et pour ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et qu'il ne faut pas oublier. Cette question environnementale, elle ne peut être traitée que conjointement, en même temps et de manière égale, entre des gens qui connaissent le milieu biophysique d'un côté et des gens qui connaissent le fonctionnement des sociétés humaines qu'ils étudient de l'autre. Et que ce n'est pas quelque chose qui peut être délégué, ça vaut dans les deux sens. Je vous remercie de votre attention.
Peut-être qu'il y a une dimension qui est la dimension de l'échelle à laquelle on regarde les choses. Parce que, bon, c'est bateau, hein, mais effectivement, si on regarde les choses à l'échelle continentale, on a des facteurs actifs qui sont plutôt de grande ampleur, climatique, etc. Alors que si on descend à l'échelle très locale du site ou de la micro-région, on n'a pas les mêmes facteurs. Les facteurs anthropiques ont tendance peut-être à l'emporter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect-là ?
C'est une bonne question. Et la question, c'est de savoir à quoi on s'intéresse. C'est-à-dire, si on s'intéresse à la prise de décision, hein, si on parle du principe d'une adaptation face à un changement, la prise de décision, elle est toujours faite à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si une famille décide de partir de cet endroit-là, elle va partir de cet endroit-là pour des raisons diverses et variées, qui sont peut-être totalement exogènes, mais elle prendra la décision en ce lieu. Donc je pense que le problème avec les discussions qui sont générales et englobantes, c'est qu'on perd ce sens-là. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait des êtres supérieurs qui fonctionnaient à ces échelles supérieures. Et qu'à un moment donné, peut-être pour nous, on a des institutions qui font qu'on transcende ces échelles et que des institutions peuvent intervenir à des échelles supérieures. Si on est dans le cadre de sociétés néolithiques, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est une question que je vous pose aux archéologues. Est-ce que la culture, hein, le groupe culturel, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la prise de décision, par exemple ?
Merci. Thank you.